VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Bamako, 14h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Au sommet du G20 à Hambourg en Allemagne, première séance de travail pour les leaders participant à la réunion. Y compris le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine qui ont échangé une première poignée de main et quelques mots avant l'ouverture des travaux. Les deux hommes doivent se retrouver pour une discussion en tête à tête afin de discuter des nombres différents entre les États-Unis et la Russie vers 13h45, temps universel. Les enjeux de cette rencontre avec Solange Nyamulisa.
Le premier face-à-face Trump-Poutine aura lieu en marge du sommet G20 à Hambourg en Allemagne. Pour le Kremlin, les deux hommes vont parler de la lutte contre le terrorisme, la Syrie et l'Ukraine. La Maison-Blanche assure de son côté que le président Trump va décider du sujet des discussions, qualifiant la réunion de rencontre bilatérale normale. Stéphane Sestanovic du Centre de réflexion Council on Foreign Affairs.
Le président a ses propres impulsions. Il pourra décider d'orienter la réunion vers une direction inattendue. Nous devons être préparés à cela. C'est son style.
Mais l'enquête en cours sur l'ingérence russe en collusion éventuelle avec la campagne de Trump jette une ombre sur les espoirs d'amélioration des relations entre Washington et Moscou. Anna Torbon de l'Institut Hudson.
Tout ce qui va se passer entre Trump et Poutine sera perçu dans ce contexte. Trump a-t-il été trop amical ou essayait-il plutôt d'être ferme avec la Russie pour calmer les critiques? Je pense que toutes ces questions auront des réponses sous peu.
Mais peu de gens s'attendent à ce que Trump soulève la question du piratage informatique russe qui, selon les services de renseignement américains, ont aidé le président américain à se faire élire. Dans les rues de Moscou, les Russes continuent d'espérer qu'après la rencontre des deux leaders, les relations vont s'améliorer.
Par ailleurs, les manifestations anti-G20 continuent de plus belle à Hambourg, ce qui a conduit les organisateurs du sommet à modifier aujourd'hui les programmes des épouses des dirigeants du G20. Programme auquel participe Melania Trump, la femme du président Donald Trump. Les forces de sécurité sur place réclament des renforts pour faire face aux nombreux protestataires. Les affrontements entre les manifestants anti-G20 et la police se déroulent pratiquement sans discontinué depuis jeudi soir. Afrique maintenant, Rwanda, dans un rapport de 30 pages paru ce vendredi, Amnesty International donne des détails sur plusieurs cas d'atteinte à la liberté d'expression et de violation des droits humains dans le pays. L'ONG de défense des droits humains basée à Londres associe la restriction des libertés politiques individuelles au régime de l'actuel président Paul Kagame. Détail avec Idrissa Sedoudia.
Amnesty International dénonce dans un rapport publié aujourd'hui des attaques répétées depuis 20 ans contre l'opposition, les médias et les défenseurs des droits de l'homme qui ont créé un climat de peur dans le pays à l'approche de la présidentielle du 4 août. Le rapport de l'ONG est intitulé « Rwanda, un pays en proie à des attaques, des actes de répression et des homicides depuis 20 ans » va élire son nouveau président.
En RDC, condamnation hier à Mbujimayi de 8 militaires accusés de meurtre de civils au Kasaï dans le centre du pays. Les peines prononcées vont jusqu'à 20 ans de prison, Eddie Sango.
C'est à la suite d'une vidéo qui montrait des hommes en uniforme en train d'abattre des civils dans les Kasaï centrales. Deux militaires ont été condamnés à 20 ans, 3 à 15 ans, 1 à 12 mois, selon leur avocat, maître Jimmy Bachilé. Les tribunaux militaires de Mbujimayi jugeaient au total 9 militaires. Deux militaires en fuite ont été condamnés par défaut à la prison à perpétuité et le 9e a été acquitté. Ils ont été reconnus coupables, entre autres, de meurtre. Ces militaires étaient d'abord poursuivis pour crimes de guerre dans cette région où l'armée est engagée contre la rébellion Kamuinansapu, chef traditionnel tué en août 2016 après s'être révolté contre les autorités de Kinshasa. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, souhaite que ces verdicts servent d'exemple à d'autres procès sur d'autres massacres dans les Kasaï, dont l'assassinat de deux experts onusiens.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Cameroun, multiplication ces derniers jours des attentats suicides des islamistes nigérians de Boko Haram. C'est ainsi que depuis samedi, trois localités situées près de la frontière avec le Nigeria ont fait l'objet d'attaques meurtrières. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka, Amora, dans l'extrême nord du pays, repris ici par Lionel Gaïma.
Les attaques suicides ont repris depuis fin mai, une augmentation qui a coïncidé avec le mois du Ramadan. Pour les hauts gradés de l'armée, cette recrudescence est aussi liée aux opérations militaires en cours le long de la frontière. Le mois dernier, le général nigérian Lakilio Irabor a pris le commandement d'une force multinationale de 7000 hommes. Depuis, ses troupes ont organisé des raids sur les dernières poches contrôlées par Boko Haram afin d'éradiquer le terrorisme le plus vite possible. Pour le commandant des troupes camerounaises au sein de cette force régionale, le général Bouba Dobekrio, certains kamikazes ont pu s'échapper pendant des raids et entrer au Cameroun déguisés en réfugiés ou comme des personnes déplacées.
Il y a actuellement un afflux massif des réfugiés vers le Cameroun que nous allons conduire au Nigeria avec leur appui. Nous avons récupéré beaucoup de matériel détruit, le dépôt de munitions de Boko Haram, nous avons détruit les véhicules.
Le gouvernement de Yaoundé dit avoir déployé plus de troupes le long de la frontière et fourni plus de matériel de communication au groupe d'autodéfense afin qu'il puisse signaler toute activité suspecte. Le conflit avec Boko Haram a déplacé près de 200 000 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, dans le nord du Cameroun qui abrite aussi quelques 75 000 réfugiés nigérians ayant traversé la frontière pour échapper aux violences.
Au Niger, l'armée nigérienne a tué mercredi par erreur 14 paysans dans le sud-est du pays. Ils ont été pris pour des djihadistes du groupe nigérian Boko Haram. Yakuba Ouedraogo.
Les 14 personnes tuées sont des réfugiés et des déplacés qui étaient rentrés dans leur village près d'Abadam. Ils avaient fui les exactions de Boko Haram et étaient revenus pour préparer leur champ en cette saison d'hivernage. Les militaires ont ouvert le feu sur eux, les prenant pour des combattants de Boko Haram. Les soldats n'étaient pas au courant de leur retour dans cette zone rouge interdite d'accès et près de la rivière Koumadougou qui sépare le Niger et le Nigeria. Dimanche dernier, 9 personnes ont été tuées et 37 filles et garçons kidnappés dans le village de Ngalewa, situé dans la même région de Difa où le groupe Boko Haram est resté très actif.
En Côte d'Ivoire, c'est la période des concours d'accès à la fonction publique, mais très peu d'élèves et d'étudiants candidats à ces concours croient en leurs chances de réussite. Selon eux, la corruption a pris le dessus sur le mérite. Plus de détails avec Georges Ibrahim Tonkara, notre correspondant à Abidjan.
En Côte d'Ivoire, tout le monde en parle et est convaincu. Pour être admis à un concours d'accès à la fonction publique, il faut délier les cordons de la bourse, payer de l'argent pour espérer être sur la liste des élus. Augustin Siri est étudiant.
Par rapport à ma fiancée qui est rentrée au concours CAFOP, j'étais obligé de pousser une somme de 400 000 francs CFA. Auparavant, à 3 reprises, j'avais payé, elle avait échoué. Mais cette fois, l'année dernière, j'ai payé 400 000 francs encore et puis voilà, elle a été admise à son concours.
Autre témoignage, celui de Kwebi qui explique ici différents échecs.
Auparavant, j'ai présenté le concours de gendarmerie, qui n'a pas marché. Et également le CAFOP, qui n'a pas marché. Mais je connais des personnes qui ont donné de l'argent et qui ont reçu le concours. Donc je suppose qu'en Côte d'Ivoire ici, les méritants n'ont pas le concours. C'est ceux qui ont l'argent qui ont le concours.
Donc vous pensez que si vous aviez donné de l'argent, vous seriez admis?
Il y a payé de l'argent, mais il y a aussi à qui payer de l'argent. Donc c'est un réseau qu'il faut vraiment trouver.
Après plusieurs échecs, Kwebi a décidé de ne plus remettre le couvert.
Moi, j'ai arrêté le concours parce que je pense que c'est inutile, puisque je n'ai pas d'argent et puis je n'ai pas la bonne personne à qui il faut donner. Donc, mieux vaut ne pas me fatiguer avec le peu que j'ai.
Les témoignages sont nombreux et la pratique, dit-on, ne date pas d'aujourd'hui. Les concours les plus prisés sont ceux relatifs à l'école de la police, l'école de la gendarmerie ou encore le CAFOP, le centre d'animation et de formation pédagogique, l'école qui forme les enseignants et éducateurs du scolaire. Yeo Poruban est fonctionnaire. Après plusieurs tentatives infructueuses, il a fini par avoir gain de cause sans avoir, dit-il, déboursé le moindre centime.
Pour un concours de 50 à 20 places, on a des milliers de candidats. Pour 50 places, s'il y a des milliers de candidats, c'est dit qu'il y a des milliers aussi qui vont perdre. Et comme ça, on se dit que c'est par voie de corruption, il faut payer pour être admis.
À la direction des examens et concours, la DECO, on réfute l'existence d'une filière liée à la corruption. Cependant, certains de nos interlocuteurs admettent avoir eu vent de cette pratique. En attendant que les choses changent, Augustin Siri veut lancer ce cri de cœur.
Et c'est un cri de cœur pour nous, les pauvres, qui n'avons pas assez de moyens pour pouvoir payer le concours. C'est difficile pour nous. Arrivé à un certain âge, les parents ne s'occupent plus de vous. Vous avez de vous-même vous prendre en charge. On nous avait dit que ça allait gâter des chances. Et aujourd'hui, nous n'en sommes pas là.
Alassane Ouattara avait promis une lutte sans merci contre ces pratiques. La réalité est tout autre, 6 ans après son avènement au pouvoir. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Ma raison.